On va pouvoir commencer. Donc on a limité les dégâts, on a simplement 5 minutes de retard. Merci d'être nombreux ici à la MC2 pour suivre ce débat qui se veut évidemment une controverse, parce que c'est un débat plein et entier, c'est-à-dire que nos interlocutrices ne vont pas prendre la parole à tour de rôle, mais vont bien échanger sur des points de vue sur lesquels elles sont d'accord ou certains points de vue sur lesquels elles ne sont pas d'accord. Je me présente rapidement, je m'appelle Yvan Avril, je suis journaliste, je suis enseignant à l'IEP Grenoble et surtout je vais vous présenter nos intervenantes que vous connaissez sans doute. Je vais vous les présenter très rapidement, on n'a pas le temps de dresser un panégyrique ou un CV exhaustif et complet. Nos intervenantes à ma droite et à votre gauche, donc Geneviève Fraisse, qui est historienne de la pensée féministe, philosophe. Elle a été déléguée interministérielle aux droits des femmes de 1997 à 1998, députée au Parlement européen de 1994 à 2004.
99.
Voilà, ça c'est Wikipédia, donc vous me rectifiez. Hein.
Oui, Wikipédia est un désastre.
Et elle a récemment publié un ouvrage qui se nomme « Du consentement aux éditions du Seuil ».
Là aussi j'en ai publié deux.
Et vous avez publié beaucoup, beaucoup de livres. Hein. On pourra peut-être en parler à la fin de l'intervention. Irène Théry à ma gauche, vous êtes sociologue, pareil, hein, vous me contredisez si Wikipédia s'est trompé. Vous travaillez sur les transformations contemporaines des liens entre les sexes et les générations, et vous avez récemment publié « La distinction de sexe, nouvelle approche de l'égalité » aux éditions Odile Jacob. Le débat sera d'une durée d'environ une heure, on a 5 petites minutes de retard, on va essayer de tenir les temps, suivi de 30 minutes pour que vous puissiez poser des questions à nos interlocutrices. Alors, trois thèmes. Premier thème, définition de la parité, simplement ce qui se cache derrière ce mot de la parité. Les trois thèmes ont été proposés par Madame Théry, je tiens à le signaler, c'est important. Et puis nous tenterons en deuxième partie de lever les ambiguïtés sur le terme de parité. Donc s'agit-il d'affirmative action à l'américaine? Est-ce que là on est dans le même genre de logique? La parité est-elle résumée à une question de sexe? Enfin, nous verrons quelle est la représentation de l'égalité, c'est-à-dire comment aller au-delà de la parité dans le cadre d'une refondation de la démocratie, puisque c'est bien ce dont il s'agit dans ce forum de la République des idées. Pour ouvrir ce débat, et je l'espère donc, cette controverse, puisque je vais intervenir le moins possible, je vais laisser nos interlocutrices parler et débattre. Mesdames, je me permettrai de citer l'article de Geneviève Fraisse, « La controverse des sexes », un court extrait qui valorisera la notion de controverse, donc comme élément moteur de ce débat. « La querelle n'est pas un soliloque, elle est un échange, elle est un interlocuteur, donnons donc tort avec affection à Simone de Beauvoir. » Les femmes comme les hommes querellent l'autre sexe et le féminisme participe de cette vaste querelle. Et la querelle du féminisme, dont tout le monde connaît si bien la passion, révèle toujours un argumentaire serré. Voilà, le décor est rapidement planté. Mesdames, tout d'abord, qu'est-ce que la parité? On va commencer par Madame Théry. Irène Théry, pour vous, ce vocable, si je résume rapidement, hein, recoupe deux débats très différents. Globalement, un débat philosophique d'un côté et un débat juridique.
Peut-être, d'abord, je vous remercie de votre introduction. Vous n'avez oublié qu'un élément me concernant, c'est que je suis la grand-mère de Ninon Théry, une jeune grenobloise qui est dans la salle et que je tenais à saluer. Avant de rappeler justement, peut-être par ce détour de l'âge, qu'il y a 10 ans déjà qu'il y a eu ce grand débat sur la parité. Certains d'entre vous s'en souviennent, d'autres ne s'en souviennent pas, mais peut-être que c'est pas mal de repartir de nos souvenirs de cette discussion des années 98-99, qui ont été des années de grands échauffements des esprits autour du Pax et de la parité, deux débats qui étaient liés et séparés à la fois, et dans lequel je pense que notre particularité à Geneviève Fraisse et à moi, c'est que nous nous sommes retrouvés finalement, je dirais ça, je ne sais pas si Geneviève sera d'accord avec moi, de part et d'autre des affrontements, l'une plutôt classée parmi les paritaristes, Geneviève, moi plutôt classée parmi les antiparitaristes, et en même temps chacune de nous mal à l'aise avec cette obligation de se situer, disant attendez, Geneviève, paritariste, mais disant la parité est indéfendable philosophiquement, elle vous l'expliquera, moi classée comme antiparitariste, mais disant sans elle, on n'aurait pas bougé sur ce problème de la représentation des femmes et de leur place dans la vie politique. Donc, c'est peut-être pas mal de partir de notre malaise à l'époque. Alors, pour répondre à votre question très vite, je dirais que à mon avis, je n'ai pas du tout aimé ce débat d'abord d'il y a 10 ans. Il était très violent. J'en ai un souvenir à travers ce livre, Le piège de la parité, argument pour un débat auquel je n'ai pas participé, mais j'aurais pu, qui est un ensemble de textes qui ont été écrits à l'époque par des gens qui étaient plutôt contre la parité, qui se sont trouvés accusés de tout ce qui était possible d'ailleurs, et pourtant parmi lesquels on trouvait beaucoup de féministes comme Elisabeth Badinter, Mona Ozouf, Lévine Pizier, Michel Rio-Sarcey, Elisabeth Roudinesco, Daniel Salnav, Dominique Schnapper, Nathalie Hennick, Elisabeth de Fontenay, etc. Donc il y avait bien des raisons pour que toutes ces femmes, et pas mal d'hommes aussi, ne soient pas fascinées par la parité, mais il était très difficile à l'époque de le faire comprendre, et encore plus aujourd'hui. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu 2 débats dans un, voilà. Donc ma réponse, c'est parité, on ne peut pas répondre avec une réponse, parce qu'il y a toujours 2 sens au mot parité. Il y a un sens qui est celui dont on se souvient aujourd'hui, qui est finalement ce qu'il en est resté dans notre droit, dans nos mœurs politiques, c'est-à-dire que la parité n'a été ni plus ni moins qu'une décision de faire sur la question des sexes de la discrimination positive. Donc c'est une politique d'affirmative action, pour parler comme les anglo-saxons, qui dit, il y a parmi nos concitoyens des gens qui ont plus de difficultés à arriver à un certain nombre de responsabilités, à un certain nombre de postes, et par exemple les femmes, et c'était évident puisqu'au début de ce débat, il y avait 5,5% de femmes à l'Assemblée nationale en France, on était la lanterne rouge de l'Europe, et donc on décide une politique volontariste qui va considérer, qui va donner des droits particuliers à cette catégorie. Et ça, c'est une définition de la parité, c'est au fond des quotas de femmes à des postes de responsabilité, et idéalement, du point de vue paritariste, un quota 50-50 qui réserve la moitié des postes aux femmes dans dans la représentation politique ou dans d'autres instances de responsabilité. Donc ça, c'est un débat qu'on aurait pu avoir à l'époque. Pourquoi faire de l'affirmative action? Quels en sont les avantages? Quels en sont les inconvénients? On connaît très bien ce débat. On sait que c'est un avantage, c'est que ça permet de débloquer des situations.
On y reviendra si vous le permettez.
Voilà, d'accord.
En deuxième partie
voilà.
du débat.
Je n'entre pas dans le détail. Je dis que nous n'avons pas eu ce débat sur la discrimination positive à l'époque. Nous avons eu, parce qu'il a été paradoxalement empêché par un autre débat qui était le suivant, qui était de dire la parité, ça n'est pas du tout ça. C'est ça qui était défendu par les paritaristes, qui disaient la parité, ça n'est pas les quotas, ça n'est pas l'affirmative action, ça n'est pas une politique de discrimination positive. Donc on niait ce qu'on faisait. On disait la parité, c'est en fait une nouvelle conception de la démocratie, c'est une nouvelle philosophie de l'égalité dans laquelle finalement on va résoudre l'éternelle question de l'opposition entre l'individu qui est universel mais asexué, nous sommes tous des individus, et les 2 sexes, les hommes et les femmes, qui sont sexués mais séparés. Donc cette alternative dans laquelle nous sommes toujours, je suis à la fois une femme et un individu, la parité proposait comme philosophie politique de le dépasser ou de le régler, parce que Sylvia Nagasinski appelait un nouveau féminisme ou une idée neuve du féminisme qui était finalement qu'au plan politique on devait considérer que l'universel c'est la partition de l'humanité en hommes et femmes, et c'est là cette prétendue idée neuve, c'est là que en fait s'est nouée toute la controverse. Et je donne très vite vraiment une citation qui explique pourquoi tant de femmes dont j'ai fait partie se sont élevées contre cette prétendue idée neuve, qui est la façon dont Sylvia Nagasinski, qui à l'époque était la femme du Premier ministre, à qui ça donnait donc une aura particulière, a justifié cette prétendue idée neuve qui permettait de faire en quelque sorte 2 collèges parmi les citoyens hommes et les citoyens femmes, et de prévoir à l'avance, en quelque sorte, de réserver 50% des sièges aux femmes, idéalement, c'était ça la philosophie de la parité, ce qui voulait dire qu'on renonçait à un certain universel. Quand une femme était à un poste, c'était par définition parce qu'une autre femme n'y était pas. Donc les femmes challengeaient entre elles, les hommes entre eux, c'était la séparation, la fin de certaines universelles. Voilà comment il a été justifié, je terminerai avec ça, cette citation. La figure humaine, c'est donc Sylvia Nagasinski qui parle en 99 au cœur de ce débat dans un article du Monde qui a suscité énormément de polémiques. La figure humaine, dit-elle, doit être celle, la figure humaine, d'un couple. La mixité est une valeur fondamentale, universelle, éthique autant que biologique. La femme est liée à l'homme comme à un compagnon possible ou un père pour ses enfants. L'homme est lié à la femme comme à une partenaire possible et à une mère pour ses enfants. La famille est la première communauté politique. Donc, c'est une conception des sexes qui, si vous y faites bien attention, est une conception qui est à la fois hétérosexualiste, on va dire, et familialiste, hein, et qui dit que finalement, les mots d'homme et de femme, qui sont les deux, peuvent être utilisés pour désigner les deux moitiés de l'humanité, doivent en réalité être ramenés à une autre définition, les deux moitiés d'un couple conjugal. Eh bien, ce que j'ai essayé de défendre dans mon livre, en 600 pages, il m'a quand même fallu ça, c'est que cette confusion des deux sens des mots homme et femme, les deux moitiés de l'humanité, les deux moitiés d'un couple conjugal, c'était justement l'héritage qui nous avait été légué par la conception des sexes qui s'est mise en place au moment de la Révolution française, qui a justifié pendant deux siècles une certaine hiérarchie des sexes au nom justement de la différence entre l'homme et la femme vue comme père et mère, vue dans la famille, vue à travers leur rôle particulier dans la génération, et qu'au moment même où on essaye de dépasser tout cet héritage, de réinventer la démocratie, voilà que, étonnamment, la philosophie de la parité nous y a ramenés en expliquant que c'était une idée neuve en Europe.
Madame Fraisse, je rappelle tout d'abord que la plupart des livres et des ouvrages de nos invités sont disponibles dans le hall de la MC2. Vous pouvez les acheter, évidemment.
Oui, dire beaucoup de choses en peu de temps. Alors, je vais parler un peu vite, excusez-moi. Historienne de la pensée féministe, avez-vous dit, avant de dire philosophe, c'est bien le moment de l'être là tout de suite. Le débat sur la parité commence avec la signature du manifeste au début des années 90, donc avant le gouvernement Jospin, donc au début des années 90, et pour moi, ça représente, puisque j'ai appartenu au mouvement de libération des femmes des années 70, où l'élément de cristallisation du mouvement de libération des femmes dans les années 70, c'était contraception-avortement, la parité arrive, je vais dire pourquoi ça ne m'intéresse pas et pourquoi Irène a raison de parler de malaise, mais en même temps, ça arrive comme l'élément qui va cristalliser. Je me souviens d'un colloque au Sénat en 93, où je sors de ce colloque en me disant: il y avait eu tellement d'interventions extrêmement explosives de représentantes de multiples associations, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'un ensemble de renouveau, de réflexion féministe, c'est-à-dire critique de la domination masculine, demande d'émancipation, d'égalité, de liberté, je vais y revenir, prend la forme, se cristallise autour d'une revendication qui s'appelle la parité, que je vais définir très vite. Alors moi, cette chose-là m'arrive de manière oblique, est très, très étrange, parce que en 89, au début du bicentenaire, j'ai publié un livre qui s'appelle « Muse de la raison, démocratie exclusive et différence des sexes », qui est une réflexion sur la façon dont, non pas les femmes ont été oubliées, comme a dit Pierre Rosanvallon dans son article du Monde, de la démocratie, mais comment elles sont, non pas exclues, mais pensées comme n'étant pas invitées au banquet, hein, exclusive et non pas excluante. Et ça, ça se noue au lendemain de la Révolution française. Et moi, j'avais écrit ce livre avec beaucoup de difficultés pour reconstituer le puzzle de cette démocratie exclusive à la fin de la Révolution, au lendemain de la Révolution française. Mais en même temps, j'avais fait œuvre d'un peu de naïveté pour la suite, parce qu'au fond, après l'exclusion, arrivait l'inclusion, et deux siècles plus tard, tout ça était réglé. Oui, sauf qu'on avait eu le droit de vote en 45 et que rien n'avait bougé depuis. 6% de femmes à l'Assemblée nationale en 45, 6% dans les années 90. Donc là, l'historienne de la pensée féministe parle encore, et je me dis, là, il y a un truc que toi, tu n'as pas vu, c'est que c'est pas parce que l'exclusif s'est transformé en inclusif que pour autant, les choses sont rendues possibles. À ce moment-là, je me suis mise à réfléchir, je me suis en discussion d'ailleurs que j'ai eue avec Irène à propos, c'est là où on passe à parité Pax en même temps, où je me suis mise à réfléchir sur le fait que il fallait que j'intègre cette dimension. Ça a donné pour moi, et ça a donné l'objet ensuite d'un deuxième livre, 10 ans plus tard, Les deux gouvernements, c'est-à-dire comment, pour moi, la question du Pax n'était pas de savoir si c'était un mariage ou pas, mais c'était une façon de savoir comment s'articuler le privé et le public. Certainement pas de la façon dont ça vient d'être rappelé de manière anthropologique par la critique qu'Irène fait de la position de Siliana Gazinski, mais moi plutôt sur le plan de la fonctionnalité d'une société contemporaine. Donc les deux gouvernements, comme il y a eu gouvernement domestique et gouvernement politique. Mais je m'en arrête là pour l'histoire. C'est pour ça que je dis que je parle vite et que je parle un peu en me dépêchant, parce que je vais essayer d'en dire le plus possible, tout en n'empêchant pas la parole de l'une et des autres. Alors la parité, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'était donc toute la différence entre citoyenneté et lieu de pouvoir. On avait accès à la citoyenneté, on n'avait pas accès au lieu de pouvoir. Donc la parité, c'était la désignation de l'absence des femmes des lieux de pouvoir. Et d'ailleurs, en Europe, c'est ça, hein, l'absence des femmes dans les lieux de prise de décision, ça s'appelle en langage gris européen. Et d'ailleurs, le débat sur la parité vient des comparaisons européennes au début des années 90. Nous sommes les derniers ou les avant-derniers, suivant les moments, entre la Grèce et nous, dans la représentation des femmes dans les assemblées nationales. L'Europe, je peux y revenir, le Parlement européen, c'est autre chose. Alors, voilà, le mot de parité désigne une absence d'égalité, une absence de représentation des femmes dans les lieux de pouvoir. Après, c'est le constat, et le constat qui sera sans cesse détruit, sans cesse déconstruit, parce que les gens font autre chose du mot de parité que cela. À savoir, ils ne désignent pas seulement les lieux de pouvoir, qui peuvent être médiatiques, économiques, etc. La réforme constitutionnelle de juillet 2008, il faudra bien en dire un mot, hein, puisque ça introduit la parité éventuellement économique. Donc, ils mélangent avec le mot égalité, ce qui pour moi est tout de suite très grave. Parce que la parité n'est pas un au-delà de l'égalité. Je me souviens d'un discours de Jospin où il disait ça. Non, au secours, la parité, parfois, est utilisée pour dire égalité, parce que égalité, c'est un gros mot. Parfois, on n'aime pas ça. Vous savez, quand l'INSEE publie la parité en chiffres, hein, il ne parle pas de ce qui se passe dans les lieux de pouvoir, il parle des inégalités entre les hommes et les femmes. Mais ils appellent ça la parité en chiffres. Ça devient un truc cache-sexe extraordinaire. Mais moi, je laisse tomber ça, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que c'est désigner un lieu qui est celui des pouvoirs. C'est pour ça qu'il y aura aussi parité linguistique et parité économique, j'y reviendrai si je peux. Donc, moi, j'en conclus que la parité, c'est un mot qui est utilisé pour dire l'égalité dans les lieux de pouvoir. Après cela, je ne vais me retrouver évidemment ni dans la position ni dans aucune des deux positions décrites par Irène Théry, c'est-à-dire que je dis oui, c'est un outil et rien d'autre. Et quand je vais faire donc une conférence pour l'Université de Tous les Savoirs en l'an 2000, qui est donc l'article que citait tout à l'heure Yvan
Avril.
Merci. Je dis clairement que c'est un outil et rien d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un principe. Là, je me fâche évidemment avec toute une partie des paritaristes, car ce n'est pas les antiparitaristes d'un côté, les paritaristes de l'autre. Moi, je vais me situer. Alors, dans les paritaristes de facto, pourquoi ? Parce que je vais signer le manifeste. Pourquoi je vais signer le manifeste ? Parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, le renouveau. D'un temps féministe fort, et ça sera effectivement le cas, je le vivrai et comme chercheuse et intellectuelle et comme praticienne du politique à travers un mandat, une fonction puis un mandat. Mais la question donc est que ceux qui confondent, ceux qui veulent faire de la parité un principe, je leur dis non, et j'utilise une formule qui en scandalise plus d'une, par exemple, je pense à John Scott qui m'allume en une phrase et demie dans son livre, je dis: c'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie. C'est-à-dire que j'inverse la formule kantienne, hein, de ce qui peut être vrai en théorie peut être faux en pratique, et je dis c'est vrai en pratique, ça marche. Alors ça marche pas seulement.
Mais est-ce que tu es d'accord? Excuse-moi. Non, c'est l'affirmative action. C'est
non, ça, il faut que je puisse continuer sans être interrompu, parce que je ne t'ai pas interrompu, sirène.
Donc je vais pouvoir. La controverse débute.
Je vais pouvoir parler de la deuxième partie. C'est un outil. Donc pourquoi d'abord, je m'en fiche de ce mot affirmative action, je prends le mot outil. Moi, je prends toujours le vocabulaire de la philosophie politique traditionnelle. J'ai ni besoin des rapports sociaux de sexe, ni de genre, ni de tout ça. J'en ai absolument pas besoin. Là, je dis c'est un outil. Ça veut dire quoi, un outil? Ça va vouloir dire immédiatement deux choses. Et donc, ça va répondre à la question que sous-entend. Donc, je vais dire d'abord, c'est, je le dis tout à l'heure, c'est voir l'inégalité. La parité, ça sert à ça. Pendant des années, ça m'a servi à ça. C'est un outil de prise de conscience. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Moi, j'ai toujours les réflexes. Depuis la crise, j'ouvre ma télévision, je vois des débats. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont complètement disparu. Il n'y a pas d'économistes. Il n'y a pas de femmes qui pensent la crise. Il n'y a pas de femmes qui pensent la mondialisation. Il y a une disparition des expertes féminines qui, depuis 6 mois, est très, très, très amusante à observer. La parité, ça m'a appris à faire ça. Je pense qu'avant les années 92-93, je n'avais pas ces lunettes pour le voir. Donc avant d'avoir à parler quota, affirmative action, tous ces mots que je n'utilise pas, je vois que ça me permet de voir l'inégalité et ça me permet de penser comment, c'est ça l'outil, produire de l'égalité. Alors il y a mille et une façons. Par exemple, quand moi j'entends mes collègues du Parlement européen, j'y suis entre 99 et 2004, me dire oh, Geneviève, en France vous êtes formidable, alors vous êtes vraiment géniaux avec votre loi sur la parité. Et moi, alors vraiment, je trouve que c'est le pis-aller, ça marche, ça va mettre des années à marcher, etc., etc. Voilà un effet de la parité. C'est ça, ce que j'appelle de la production d'égalité. Est-ce que c'est seulement le fait de savoir s'il va falloir mettre tant ou tant, si on est en scrutin uninominal ou en scrutin proportionnel? La question, avant d'être celle-là, il faut s'en tenir d'abord aux définitions de base. Voir l'inégalité, produire l'égalité. Moi, j'ai aussi appris, avec la parité, et j'ai été déléguée interministérielle un peu malgré moi, donc puisque je n'ai pas recherché cette fonction et qu'elle m'est un peu tombée dessus, j'ai appris beaucoup de choses, mais des tonnes et des tonnes de choses pendant cette année-là, et notamment que moi, la philosophe, l'historienne de la pensée féministe, face aux journalistes, face aux autres hommes politiques, face à tout cela, et Dieu sait, la parité, c'était un dossier de cohabitation. Alors, Dieu sait si normalement des choses étaient rendues possibles, et notamment de voir tous les conseillers d'État, comme moi j'étais commissaire de la République, être d'accord parce que leurs chefs, les deux chefs des deux côtés, leur disaient d'être d'accord. Des choses très très drôles à voir. Mais ce que moi j'ai appris là, c'est que le seul argument que je pouvais utiliser dans les discussions, moi qui aime justement retrouver l'intelligibilité de la pensée féministe, donner les arguments, retrouver ce qui se passe en amont, etc., eh bien c'était ce que j'appelle le chiffre de l'inégalité. Et la parité, c'est un mot de comptable. La parité, c'est je compte. Donc je parlais de visibilité et de production. C'est ça qui est fondamental. C'est que c'est là. Et alors, moi, ce que je pense qu'a permis la loi sur la parité, alors là, je reviens à un ensemble plus général.
Oui, après, on va laisser la parole à Madame Théry, puisque le temps passe.
Oui, c'est. Si je regarde le temps, je n'ai pas encore dépassé mon quota.
Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez. Hein.
C'est que le comptage. Et la parité, c'est pour l'historienne de la pensée féministe que je suis sur 2 siècles, c'est la représentation de la dernière loi produisant de l'égalité, compte tenu qu'il y a 2 concepts pour penser l'émancipation, qui est d'un côté l'égalité, d'autre côté la liberté. Vous laissez tomber fraternité, mixité, parité, etc., diversité, on pourra en parler dans une des autres axes, mais avec ces 2 principes de la démocratie, égalité et liberté, ce que j'aperçois avec cette loi, c'est qu'en même temps que s'achèvent les lois de la famille, c'est-à-dire les partages dans la famille, c'est pour ça qu'il faut bien mettre Pax et parité dans une même analyse historique, il se passe une loi qui va... C'est l'ultime étape. La question du lieu de pouvoir, c'est une ultime étape dans les réformes législatives égalitaires qui ont commencé au XIXe siècle. Après ça, ça ne résout pas, ça ne produit pas nécessairement de l'égalité réelle. On est bien d'accord. Là.
Merci Geneviève Fraisse. Irène Théry, je crois qu'on est rentré, grâce à Madame Fraisse, de plein pied dans le deuxième axe de cette controverse, de ce débat. En quelque sorte, la parité et ses ambiguïtés, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous dites, vous, Irène Théry, que l'on ne peut nier les effets de la parité comme affirmative action, mais que dans le même temps, vous n'énoncez une conception pas très nouvelle de l'égalité.
Oui, je voudrais m'excuser auprès de Geneviève de l'avoir interrompue. Je l'ai fait parce que je pense que si on veut que le débat avance, à des moments, il faut pouvoir marquer des accords, des désaccords. Comment est-ce qu'on progresse?
Donc, je crois que nous sommes. D'ailleurs, Madame Fraisse.
Donc, je crois que nous sommes d'accord sur le fait de dire que ça a été. Je suis tout à fait d'accord avec. Donc, je vais donner mes accords avec elle. C'est plus simple. Je suis d'accord avec l'idée que
il a été très bien, et ça s'est, il s'est trouvé que c'est sous l'égide de la parité, de, dans les années 90, qui sont un moment historique particulier, de sortir, si on peut dire, ce problème de la place des femmes en politique. C'était effectivement le moment historique de le faire. Ça a été manifestement par une approche volontariste, ce n'était pas obligatoire, hein. Quelquefois des gens prennent conscience de choses, mais vu ce que sont les partis politiques français, vu ce qu'étaient les formes de la représentation, le cumul des mandats, des tas de choses, il fallait une politique d'affirmative action. Donc ça veut dire une entorse à nos principes universalistes, une entorse à nos principes démocratiques pour favoriser les femmes de façon à avancer. Et donc ça donne par exemple une liste, Shabada Bada, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Bon, ce que moi je dis, pourquoi j'insiste sur ces points, c'est que je dis, je suis d'accord pour que, c'est pareil, ça a été pareil d'ailleurs dans toutes les politiques, c'est pas spécial aux femmes. Ces politiques volontaristes peuvent être utiles, elles ont été utiles pour les Noirs aux États-Unis, elles ont été utiles pour les femmes en France. Mais ce sont des pis-allers qui ont des tas d'effets pervers. Et donc, nous devons les accepter comme des pis-allers et nous dire comment allons-nous les dépasser. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il y a deux sens au mot parité. Comme pis-allers et politique d'affirmative action, je suis d'accord et ça a été utile. C'est mieux qu'effectivement, je ne suis pas aveugle à la présence des femmes. Donc, tu as tout à fait raison de dire que quand, à un moment dans un débat, tu ne vois plus de femmes ou quand tu ne vois pas d'hommes, parce que moi, je dirais pourquoi il n'y a toujours pas d'hommes au débat sur la parité, hein ? Pourquoi il y a deux femmes ici, encore une fois ? Donc, c'est vrai dans les deux sens. Hein. C'est vrai dans les deux sens. Donc, tu as raison de dire quand il y a trop peu d'hommes quelque part ou trop peu de femmes quelque part, ça signale un problème. Là où je suis en désaccord, c'est d'avoir cru, et c'était ça le mot parité, cru qu'on avait trouvé en quelque sorte la pierre magique qui allait nous résoudre le problème de l'égalité et de la différence. Ne m'interromps pas non plus. Donc non, je termine. Je te donnerai tout ça. Donc ce que je voulais dire simplement, c'est que mon désaccord n'était pas sur le constat, n'était pas sur la politique volontariste. Je trouve que je préfère la situation de la représentation politique aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais je dis que l'erreur a été cette philosophie de la parité, c'est-à-dire de croire que c'était l'idée neuve de l'égalité, que l'égalité en matière des sexes, ça devait être 50-50, le partage 50-50 des postes à pourvoir à l'avance comme un rêve qui nous permettrait de dire à la fois l'universel et l'universel différence. C'est là le rôle joué par Sylvia Nagansky, j'ai rien contre l'individu, hein, bien sûr, mais c'est qu'on a vu se rapatrier tout ce discours différentialiste que nous avons critiqué l'une et l'autre. À ce moment-là, on nous a dit les femmes, vous savez, elles sont mieux que les hommes, elles ont moins le sens guerrier, elles ont de la sollicitude, bon, toutes sortes de tas de qualités. Or, le problème à ce moment-là, c'est que la parité, a-t-elle été une réinvention de l'idée démocratique ou elle était une ringardisation de l'idée démocratique ? Ma réponse, c'est une ringardisation de l'idée démocratique. Alors, je dis, maintenant, nous avançons. Je dis, pourquoi c'est une ringardisation ? Parce que ça ne prend la question de l'égalité que sous la forme que tu as dite comptable, que sous la forme de la comparaison. Alors, la comparaison, ça a un certain intérêt, mais ça a une grande limite. Alors, je dis quoi ? On prend un bien quelconque, par exemple, un bien social, la réussite sociale, le niveau de salaire, on peut en prendre plein. Et la parité, c'est pour ça qu'elle a incité à prendre le problème de l'égalité sous la forme de la comparaison. On fait les hommes, les femmes, chaque fois que le niveau des femmes rejoint celui des hommes, on a l'égalité. Ça a instillé cette représentation. Ça a instillé une représentation donc comptable, comparative et indifférentielle. De l'égalité. L'égalité, ça serait 50-50 partout. Et c'est pour ça qu'on a des observatoires de la parité qui ne font que ça. Alors, je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que ça a un intérêt pour moi quand je vois que les femmes n'ont toujours pas à activité égale, salaire égal. Bien sûr. Mais je dis que en se contentant de cette approche comptable, on a une conception ringarde. Pourquoi ? Parce que, j'ai de dire le plus vite possible pour ouvrir la suite. Parce qu'une société, ça n'est pas qu'une collection d'individus. Une société, ça n'est pas une population. Une population, c'est une liste d'individus. Et on peut, les séparer entre les individus hommes, les individus femmes. Et la parité, elle entérine l'idée qu'une société, c'est une population, et il y a les hommes, les femmes. Bon. Or, une société, ça n'est pas une population, c'est un tissu de relations. Une société, c'est un tissu d'actions et de relations. Et dans ces actions et ces relations, nous pouvons être tantôt agir en tant qu'individu, tantôt en tant que femme ou homme. Nous sommes tantôt dans des relations de même sexe, tantôt dans des relations de sexe opposé, tantôt dans des relations de sexe indifférencié. Et tout l'art politique, c'est de dire dans quel cas on veut justement que la relation soit neutralisée. Je n'agis pas en tant que femme, même si je suis une femme. Et dans quel cas, nous pensons au contraire que c'est important de maintenir une référence à la distinction masculin-féminin. Ce qu'a fait la parité, justement, c'est qu'elle a enlevé toute la dimension de l'action et de la relation. Elle a donc réduit une société à une population. Et elle a inventé cette idée que l'égalité, ça serait quand on arriverait à...
Non.
À 50-50.
Alors, allez-y, madame.
Non, alors,
voilà. Donc c'est ça que je critique.
On va laisser ça. Oui, bien sûr. Quand même que on peut,
donc
on peut
c'est ça qu'on appelle.
Aussi,
voilà.
Alors on instaure le débat. Merci. Allez-y.
La parité non. En chiffres, c'est ça.
Alors, je suis désolée. J'ai dit d'abord que la parité, c'était le partage dans les lieux de pouvoir. Ça, c'est du politique. Donc, que Irène veuille reprendre seulement l'aspect comptable dans mes dires, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de répondre sur le deuxième point tout à l'heure, parce qu'on ne me l'a pas laissé, donc je vais le prendre. Et ensuite, parce que la question de l'égalité, vous savez d'où vient parité en latin? Ça veut dire pareil. Ça ne veut pas dire le même nombre, ça veut dire pareil. J'ai juste restitué historiquement comment la question de la visibilité du nombre et la question de l'argument de la preuve par le nombre avait été de l'efficace politique. Ce qu'on appelle de l'efficace politique. En rien de la définition du parité. C'est ce que j'appelle le vrai en pratique. Maintenant, parlons du faux en théorie. Parce que ramener, réduire, enlever le politique, le mot parité, si c'est un outil, alors ce n'est pas ce que vient de dire Irène, à savoir quelque chose qui ringardiserait l'égalité. Ce n'est pas de l'égalité. C'est un outil pour voir une égalité
en fait.
Et produire de l'égalité, je le répète, dans les lieux de pouvoir. Qu'est-ce que les lieux de pouvoir? Ça s'appelle le gouvernement. Qu'est-ce que j'ai découvert, moi, avec la parité, que je n'avais pas compris dans Muse de la raison? C'est qu'il y avait une différence entre gouverner et représenter. Qu'il y avait eu des femmes ministres en 1936 avant qu'on ait le droit de vote. Et moi, j'ai été une fois nommée par un chef, une année, et une fois élue pendant 5 ans. C'est pas la même chose d'être élu ou que d'être nommé. J'avais fait l'analyse antérieurement à ma pratique, j'ai vérifié dans la pratique que c'était le cas. Effectivement, on peut, style ancien régime, nommer et style effectivement république, élire. Mais ce qui se passe, moi, ce que ça m'a permis de trouver, c'est pas tellement d'abord la différence entre gouverner et représenter. Donc vous voyez qu'on s'éloigne des chiffres, hein, parce qu'on a bien d'autres choses à discuter que ça. C'est représenter, gouverner. Comment ça se passe? C'est plus difficile, avais-je écrit dans un article de l'IB en 93, c'est plus difficile, visiblement, d'être élu que d'être nommé. Et ça, on peut expliquer pourquoi. Maintenant, ça a été dit et redit, on voit bien, vous pouvez le voir sur le dernier gouvernement en date, le nôtre, les différences entre être élu et être nommé. Donc, ça vaut le coup de réfléchir à ça. Mais moi, ça m'a fait réfléchir à une deuxième chose, grâce au débat sur le Pax, c'est-à-dire au double gouvernement. Gouvernement politique, gouvernement domestique. J'ai découvert qu'effectivement, la famille, pour moi, c'est un espace politique, c'est-à-dire un espace de décision. Pas seulement un espace de 50-50, je vais partager l'autorité parentale et ceci et cela, mais un espace où il se prend une décision. Et moi, c'était quand le gouvernement Jospin, c'est juste avant que je sois nommée, pose la question de supprimer l'allocation de garde pour enfants à la maison, et que le journal Elle avait titré « Jospin veut faire rentrer les femmes à la maison ». Et moi j'avais parlé à mes camarades hommes, je leur avais dit « Ah bon, c'est votre femme qui va rentrer à la maison dans ce cas-là » Mais qui remplit la déclaration URSSAF? Ah, c'est vous. Mais alors c'est bien une décision commune. Donc c'est du gouvernement domestique, etc., etc., etc. Ça existe, le gouvernement domestique, comme le gouvernement politique. En ce sens, donc, la parité est bien un outil et rien d'autre de visibilité, de production, de ceci, de cela. Ce qui me permet de répondre donc au deuxième point, moi ça sert à rien d'aller prendre ce qui pour moi ne fonctionne pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pensé la parité, donc mettons, je me mettrais un troisième pôle, si on reprend les deux pôles d'Irène, moi je suis sur un troisième. C'est-à-dire, je suis du côté de l'outil, mais je n'ai pas besoin de penser affirmative action ou pas. Ce que je sais historiquement, c'est qu'il n'existe pas dans l'histoire de production d'égalité sans contrainte. Vous croyez que les mômes, en 1880, ils ont tous eu envie d'aller à l'école, et les parents d'envoyer leurs enfants à l'école? On a forcé les enfants à aller à l'école. Il n'y a pas d'égalité sans contrainte. Bien sûr, ça s'appelle la volonté politique, mais plus que ça, philosophiquement parlant, quand Elisabeth Badinter disait « il suffit d'attendre, on a les bons principes », oui, on avait fait les calculs, 150 ans. Bon, avec la loi sur la parité, on est passé de 6 à 18. Vous me direz en disant « c'est pas génial », mais 6 à 18. Ouais, bon. Par exemple, hein, juste si on prend l'Assemblée nationale, on pourra prendre d'autres exemples. Ça, c'est une première chose. Moi, ça m'a permis aussi de constater que le milieu universitaire et intellectuel était finalement encore plus macho que le milieu politique. Ça, si vous voulez, dans la discussion, je suis un peu comme Tirésias, maintenant j'ai vu les deux, et là-dessus, on peut dire des choses. Hein. Je trouve que la parité, c'est encore plus dur dans le milieu académique que dans le milieu politique. Mais venons-en à la question anthropologique. Le débat des paritaristes est beaucoup, et j'ai fait un débat récemment au Sénat où la question est revenue, à ma plus grande surprise pour 2009, parce que je croyais que pour le coup, tout le monde avait compris que c'était un outil. C'est que le souverain devrait être, que le biologique pourrait servir de fondement aux politiques. Moi, c'est tout de suite ce que j'ai dit au milieu des années 90. J'ai dit, le biologique ne peut pas fonder le politique. C'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est pour ça que j'ai compris, quand les premières discussions sur la parité au niveau ministériel et matignonesque, c'était article 23, c'est-à-dire les techniques des élections. Moi, ça m'allait très bien, un pragmatisme pur. Et puis après, c'est revenu à l'article 3, qui est la souveraineté nationale. Je me suis dit, bon, la souveraineté, on peut comprendre qu'elle soit incarnée, non pas fondée, mais incarnée. Et là, maintenant, avec la réforme de juillet 2008, pour l'égalité professionnelle, on l'a mis à l'article 1, où là, monsieur et madame Badinter étaient absolument furieux dans les débats sur la parité, qui puissent éventuellement être envisagés d'être mis là. Et là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec eux. Parce que ce n'est pas dans la République une et indivisible qu'il faut aller mettre l'égal accès. Donc là, c'est pour les responsabilités professionnelles, sociales, etc., etc. C'est passé comme une lettre à la poste. C'était en juillet 2008 dans le package réforme constitutionnelle. Donc de ça, on pourrait parler aussi. Mais tout ça, c'est pour dire en un mot...
Oui,
que
après, je vais donner la
parole. L'anthropologie.
Vous avez largement dépassé votre temps de parole.
Non, je ne crois pas. Si. La question anthropologique. La question anthropologique. Faire une caricature du chiffre d'un côté et une caricature de l'anthropologie de l'autre, moi je me mets entre les deux dans un troisième terme, en triangle, et je dis c'est un outil et on n'a pas besoin de poser la question du biologique à l'intérieur de cette question de politique pour produire de l'égalité dans une société qui est bien un collectif.
Alors Irène Thierry, rapidement, oui. Parce qu'on va quand même essayer, il ne nous reste qu'un quart d'heure, on va essayer quand même de se projeter un petit peu, puisque effectivement on parle d'égalité, de parité. Vous militez, vous, pour aller au-delà de la parité, c'est bien, j'imagine, ce qui vous intéresse, de savoir ce qui se passe aujourd'hui.
Je ne sais pas si notre débat est très clair, et je pense qu'une des raisons, si tu me permets de le dire, Geneviève, c'est la différence entre la femme politique que tu es et celle que je ne suis pas.
Mais je ne suis pas une femme politique.
Que tu as été. Tu donnes beaucoup, tu as beaucoup le souci, je le comprends. Mais parce que tu as exercé des responsabilités politiques, de justifier, et tu viens de le faire longuement, quelle était ta position, etc. J'étais pas bon. Ça n'est pas ma démarche. Donc c'est pour ça que notre débat n'est pas clair. J'essaye de poser des termes, pas ma démarche à moi, mais des termes pour tout le monde qui permettent de comprendre pourquoi il y avait des ambiguïtés. Et toi, tu essayes de dire ma position, elle était celle-là.
Non. Je suis obligée d'arrêter. Je suis désolée que tout ce que je viens d'expliquer a été publié avant même mes fonctions. Bon, publié dans des textes académiques.
Tu n'écoutes pas. J'ai dit simplement que nous avons un débat où quelqu'un qui se trouve avoir été une personne politique, c'est mon explication, je peux l'avoir, a le souci devant un public d'expliquer sa position, de justifier sa position depuis le début du débat, et une autre personne qui est moi, qui considère que ma position personnelle ne vous intéresse pas tellement, que ce qui intéresse tout le monde, c'est de clarifier des concepts, des notions, etc. Bon, et de s'y retrouver. Donc, ce que je veux dire simplement...
Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est fait que... de la philosophie est moins...
Non, pas du tout.
Nous nous arrêtons pas là.
Il faut être...
Ce que je veux dire, tu nous expliques que tu défends l'idée que la politique est volontariste, que tu as défendu qu'il fallait avoir une politique volontariste en la matière. Tu viens de terminer là-dessus. C'est le point sur lequel nous avions commencé au début, et donc on tourne un peu en rond. Ce que je voudrais dire simplement, c'est donner une image de... vous avez bien compris que, au moins, que sous ces termes, on met des tas de choses compliquées, différentes, et qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver.
en quoi on a avancé les choses quand on a parlé de parité plutôt que d'égalité de sexe. Voilà les questions qu'on pourrait se poser. J'ai répondu, on avait avancé parce qu'on a pris une politique volontariste, donc ce point de vue-là, nous pouvons enregistrer un accord. On aurait pu l'enregistrer dès le début de la discussion. Il fallait une politique volontariste pour changer quelque chose à l'attitude des partis politiques. Bon. J'ajoute qu'il faudrait que ça soit momentané et qu'au moment où Obama nous dit « J'espère que mes filles n'auront pas besoin de l'affirmative action qui m'a permis à moi de faire les études, qui m'ont permis de devenir le premier président African-American des États-Unis », nous pourrions, nous, Français, entendre également qu'il faudra penser que les politiques qui font un homme, une femme, un homme, une femme dans les élections, il faudra un jour dépasser cela, parce que moi, ce que je veux, c'est que quand une femme ou un homme est quelque part, que ça soit en politique ou ailleurs, il y soit pour ses compétences, il y soit pour ses idées, il y soit pas pour son sexe. Donc, de ce point de vue-là, on est d'ailleurs d'accord, et donc il faut dépasser cela. Quand j'ai parlé de ringardise, c'était pour provoquer. C'était pour dire, est-ce qu'on a gagné dans notre conception des problèmes de l'égalité depuis 10 ans grâce à ce terme de parité ? Je pense qu'on n'a pas gagné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas traité les problèmes tels qu'ils se posent. On n'a pas cherché la racine des problèmes. Et je pense que là-dessus, j'ai des points d'accord avec Geneviève. Je pense que la racine majeure des problèmes d'égalité de sexe dans ce pays, c'est notre difficulté à articuler la sphère privée et familiale et la sphère sociale et politique. Nous sommes assez d'accord. Donc, de ce point de vue-là, oui. Si on avance, c'est dans l'articulation de toutes ces sphères et ça n'est pas simplement en résolvant le problème de façon autoritaire, en mettant des femmes dans tel ou tel lieu de pouvoir, même si ça sert à quelque chose, on est d'accord. Alors, le point central, à mon avis, c'est le fait que je dirais simplement ça. Si nous voulons aujourd'hui avancer sur pourquoi ça n'avance pas, pourquoi dans un jeune couple très égalitaire, plus jeune que moi, très égalitaire, où la femme et l'homme veulent l'un et l'autre s'épanouir dans toutes les dimensions de la vie, comment vous expliquer que ce jeune couple qui a des idées très égalitaires, qui a été baigné dans son enfance dans l'idée d'égalité de sexe, au bout d'un certain temps, ils reproduisent les schémas classiques où finalement c'est l'homme qui va davantage s'investir dans son métier, c'est elle qui va articuler l'éducation des enfants et son métier, qui va prendre plutôt un boulot dans le public que dans le privé pour avoir ses mercredis et tout ça. C'est ça la question. C'est pourquoi des gens très égalitaires reproduisent ce problème. Moi je dis qu'ils le reproduisent parce que la société n'est pas à la hauteur du changement qu'est l'égalité de sexe. Elle n'est pas à la hauteur de ce changement parce que c'est un changement sociétal global. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Et qu'il réclame donc cette question. Il y avait un monde masculin que Geneviève a très bien décrit dans ses livres. Moi, je suis une grande admiratrice de la muse de la raison, donc je ne vais pas changer pour le débat. Hein. Geneviève a une formule qui m'a marquée à vie. Elle a dit que c'était dans la situation classique, les hommes faisaient les lois et les femmes les mœurs. Eh bien, c'est ça qu'on essaye de changer. C'est ça qu'on essaye de changer. Donc, de ce point de vue-là, la parité ou toutes ces choses ne sont pas à la hauteur de ce changement. Ce changement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Pour le moment, on dit aux gens, cette question de l'articulation entre la vie privée, familiale et professionnelle, vous allez résoudre ça dans votre couple. Mais on ne peut pas résoudre comme un problème privé et familial ce qui est un problème politique et sociétal. C'est insoluble dans le couple. C'est insoluble dans le couple. Pourquoi c'est insoluble dans le couple ? Parce que ça n'est pas parce que les femmes sont des opprimées qu'elles veulent garder les enfants. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que la parité a manqué. Quand elle a dit, finalement, les femmes n'accèdent pas à la même chose que les hommes. Mais la résistance des femmes à se comporter comme des hommes, comme les autres, hein, ça vient du fait qu'il y avait une certaine valeur traditionnelle des statuts féminins. Les femmes, mes grands-mères, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, n'étaient pas que des opprimées. Il y avait une valeur de leur place sociale. Elles avaient un certain pouvoir, elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient des personnes âgées, elles s'occupaient des malades, elles s'occupaient de la maison. Tout ça, ça a une valeur sociale, même si c'était considéré comme inférieur. Et autour des questions du care aujourd'hui, de la sollicitude, de tas de choses, on essaye de dire, mais il y avait une valeur du féminin aussi. Le féminin, c'était pas que l'inférieur. Et donc, nous devons, hommes et femmes, réintégrer cette valeur, mais comme une valeur de tous, pour tous. Donc, c'est là où on est en retard et où la parité, qui en fait n'a vu les femmes que comme celles qui voulaient rattraper les hommes, n'a pas vu que les hommes devaient également et étaient aussi intéressés à s'emparer des valeurs traditionnellement féminines. Donc c'est là que je dis que la parité nous maintient dans des questions de 50-50, alors qu'il faut inventer quelque chose. Par exemple, un exemple, pourquoi est-ce que dans toutes les entreprises, on ne se pose pas le problème du fait que les gens qui viennent dans l'entreprise, ce n'est pas des individus abstraits, c'est aussi des gens qui peuvent avoir des enfants. Pourquoi est-ce que la question de cette articulation n'est pas posée dans toutes les directions d'entreprise, comme une question collective, etc.
Madame Thierry, on va laisser conclure Geneviève Fraisse, puisque vous avez été la première à prendre la parole, et puis après on demandera à notre public, donc hommes et femmes, de vous poser les questions qu'ils ont à vous poser. Madame Fraisse, donc on a vu cette notion de complémentarité, d'égalité entre les hommes et les femmes. Évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec Madame Thierry, en tous les cas, j'espère.
De toute manière, ni complémentarité, égalité, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc là-dessus, je veux bien être en désaccord. Permettez-moi très rapidement de dire que je m'autorise aussi à utiliser des concepts, et notamment, par exemple, ce gouvernement. Et en utilisant des concepts comme celui de gouvernement, dès la fin des années 90, donc puisque je l'ai publié en 2000, j'ai publié un texte qui s'appelle « Les deux gouvernements, la famille et la cité », qui posait comme terme, contre le terme habituel de conciliation, de réconciliation, voire de combine, comme on dit beaucoup en Europe, j'avais posé le terme d'articulation. Alors, si je dis que je l'ai aussi utilisé dans la vie politique, ça ne va pas apparaître de manière conceptuelle, mais de manière militante. Non, c'était pour dire qu'il fallait non pas concilier deux espaces, mais articuler l'espace domestique avec l'espace politique. L'opposition de Loimer, et c'est Rousseau qui fait ce travail, qui dit qu'il ne veut plus, ça vient évidemment de la pensée du contrat social, mais qu'il ne veut plus penser de manière analogique le gouvernement domestique et le gouvernement politique, c'est-à-dire le père et le roi. Il faudra deux siècles pour repolitiser la question de la famille. Repolitiser, ça veut dire non pas mener la guerre des sexes, hein, comme on aime le dire dans la famille, mais poser les questions d'égalité, d'égalité de droit et, comme je le disais tout à l'heure, de partage de pouvoir, d'où la parité domestique. C'est-à-dire qu'en 2000, nous sommes en 2009, j'ai donc proposé comme tome 2 à Muse de la raison, les deux gouvernements et l'articulation du domestique et du politique, car ça me paraît, et c'est grâce au Pax, grâce au débat sur le Pax, que moi j'ai eu cette réflexion, parce que pour moi il ne fallait pas comparer le Pax, l'union libre, de manière, et là-dessus nous avions eu des discussions, Irène et moi, sur mariage, pas mariage, union, etc., etc. Pour moi, les éléments de comparaison n'étaient pas dans ce sens-là, mais entre, justement, le public et le privé, l'espace familial et l'espace social, professionnel, politique. C'est pour ça que je tiens si fort à ce mot de gouvernement. Parce que si nous voulons, et puis alors je vais en terminer juste par une chose après, si nous voulons que, effectivement, l'égalité devienne réelle et ne soit pas seulement formelle, alors il faut penser en termes de gouvernement, répartition, partage, pas complémentarité, car je garde mon fil rouge de l'égalité, et la complémentarité n'est pas l'égalité, mais simplement, il est clair que, bien sûr, tout le monde a une éducation égalitaire et ça ne marche pas dans les familles, mais moi j'ai envie de dire, bien sûr, tout le monde aimerait bien que tous les citoyens et que tous les êtres d'une société soient égaux, mais ça ne marche pas, donc ça s'appelle les inégalités, ça s'appelle des systèmes de domination, d'exploitation, d'oppression, de production, d'exploitation. C'est vrai dans les espaces économiques et c'est vrai aussi dans l'espace du rapport entre les sexes. C'est tout le problème de l'analyse de la domination masculine. Et là-dessus, c'est vrai que je pense que malgré tous nos accords, Irène et moi, nous aurons là, sur l'analyse de la domination masculine, sans doute un désaccord.
Ce sera sans doute l'objet d'un prochain débat. On va faire circuler le micro dans l'Assemblée.
Voilà.
Alors, je vous demanderai simplement, évidemment, de lever la main, de vous présenter et surtout de vous adresser à l'une ou l'autre de nos interlocutrices lors de votre question. Voilà, monsieur.
Madame, pardon, merci.
Ça commence bien.
Ça tombe très bien, très bien. Très, très bien. Non, mais justement, ça tombe très, très bien. Parce que je suis intéressée par le débat et les deux positions. Et en fait, je me demande quelque part. Donc, je suis Florence Jousselin, grenobloise, citoyenne active, voilà, tout ce que vous voulez. Et en fait, l'histoire, bon, je pense, la parité. Enfin, par rapport à vos deux discours, il y a peut-être une clarification très, très forte à faire, en fait, entre qu'est-ce qu'on appelle donc les rapports hommes-femmes et puis féminin-masculin. Parce que féminin-masculin, dans féminin-masculin, bon, il y a tout l'aspect valeur et compagnie, et il y a cet aspect domination, c'est-à-dire que qui établit les modèles, qui établit les stéréotypes, d'où ils viennent, etc. Et que quand on dit, oui, les valeurs féminines, ce serait bien qu'elles soient prises par l'ensemble de la société, quelles sont-elles, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on peut les traduire, etc. Donc l'aspect, moi j'aimerais bien qu'on ait ce discours-là en tant que féministe, enfin que les féministes se posent la question.
Vous adressez votre question et faire... à qui en particulier?
Eh bien, je l'adresse aux deux. Bon, j'aimerais bien qu'elles répondent.
On va leur demander de répondre.
Comment est-ce qu'on fait la différenciation entre hommes, est-ce qu'elles-mêmes font une différenciation entre hommes-femmes, les rapports hommes-femmes, l'égalité hommes-femmes, bon ça c'est une chose, c'est un des débats, et l'aspect féminin-masculin, parce que je crois que si on ne le parle pas comme ça, on mélange tout et on ne sait plus ce qu'on fait.
Je suis comptable du temps et le temps passe vite, donc il ne faut pas que les questions soient plus longues que les réponses. Madame Fraisse, deux minutes, hein, parce qu'on va essayer de faire parler.
Non, juste alors là, je vais faire un témoignage hors concept. La question du valeur féminin-masculin, elle a été, et elle est, y compris dans les discours de réflexion en sciences politiques, je pense abusivement prégnante dans le débat sur l'égalité des sexes et sur la parité comme outil. Abusivement prégnante parce que si quelque chose introduit de la confusion, pour moi c'est cette question-là. Je distingue bien entendu homme-femme de masculin-féminin. Là encore, il faudrait prendre les années 1800, les années 1900, les années 2000 pour différencier les choses. Mais en tout cas, je pense que c'est un débat parasitaire. Je pense que c'est un mauvais débat. Je pense que c'est une mauvaise question. Et que alors là, en l'occurrence, d'un point de vue expérimental, il est clair que la plupart des femmes qui se retrouvent dans les espaces politiques ont une vision très simplifiée, très simple de la question du féminin. Si nous sommes à l'heure aux commissions parlementaires, si nous sommes plus présents dans les commissions parlementaires, c'est que nous sommes encore des invités de la représentation. C'est juste, il faut historiciser les choses. Je ne crois absolument pas qu'il faille rentrer dans le débat masculin-féminin et de l'espace des valeurs, qui est d'ailleurs une des conséquences du débat anthropologique que nous récusons l'une et l'autre, en l'occurrence. Donc je pense que c'est une mauvaise question et qu'elle mérite d'être débattue, mais si c'est pas celle qui fait écran pour qu'on puisse poser les bonnes questions.
Irène Théry.
Oui, je pense que c'est une très bonne question, donc que c'est même la question principale. Notre difficulté à distinguer en fait deux figures logiques, celle qui va séparer un ensemble en deux sous-ensembles, par exemple l'ensemble des individus que nous sommes peut être séparé en l'ensemble des hommes, l'ensemble des femmes. C'est une figure logique, hein. Et puis il y a une autre figure logique qui est très différente, qui est quand on va diviser un tout en deux parties. C'est pas du tout la même chose, parce que les parties d'un tout, par exemple, d'un tout d'une relation, par exemple, vous savez, la relation, par exemple, parent-enfant, exemple, n'importe quelle relation, les deux parties de la relation, elles n'existent pas indépendamment de la relation elle-même. Vous comprenez, c'est pas des propriétés, on ne peut pas poser les parties avant la relation qui les distingue et les unit. Donc, masculin-féminin, pour moi, ça qualifie des relations. Donc, je pense que le débat sur le genre, c'est un débat extrêmement important qui commence à peine. Et donc, masculin et féminin sont des notions relatives. Ça va qualifier une relation, par exemple, de parenté. Elle est une relation de sexe opposé, masculin-féminin, de même sexe masculin-masculin, de même sexe féminin-féminin, ou éventuellement de sexe indifférencié, quand ça n'a pas d'importance de distinguer des normes masculines et féminines de façon d'agir la relation. Alors que homme-femme, ça se réfère à des propriétés des individus qui permettent des propriétés qui vont permettre de les classer d'un côté ou de l'autre. Il y a une confusion conceptuelle en permanence, et mon livre est consacré à défaire justement cette conception. Je dirais juste une chose, pourquoi c'est un débat très important, parce que, et ça nous amène aussi à la question de la domination masculine, c'est que on voit bien qu'à travers le débat sur la parité, on a tendance à ramener tout le problème au problème problème de classe de sexe, les hommes, les femmes, domination masculine. Ça vient d'être dit. La domination masculine, ça veut dire des hommes sur les femmes. Ce que je pense, c'est qu'il faut passer d'une vision ensembliste, identitaire, les hommes, les femmes, la domination masculine sur les femmes, etc., à une conception qui appréhende tous ces problèmes par les relations. C'est une conception relationnelle qui va permettre donc de dire que dans les sociétés, la nôtre ou les autres, il y a toujours, même dans les sociétés très traditionnelles, il y a toujours des relations de sexe indifférencié. Il y en a toujours eu, dans lesquelles il n'importe pas de distinguer une manière d'agir féminine ou masculine cette relation. Et que le débat actuellement, il est de passer
de ces positions identitaires où vous êtes classé, quelles sont vos performances à une recomposition des relations. Et ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est effectivement de nous mettre en cause dans deux domaines, notre rapport au passé et notre rapport aux autres sociétés. Je pense que sur la question des sexes, nous avons une position qui est terriblement présentiste. Ça veut dire qu'en dehors du présent, on considère qu'il n'y a eu que de la domination masculine des hommes sur les femmes, il n'y a rien à garder. Je pense que cette vision du passé est caricaturale, ridicule, et ne rend pas compte de la complexité de ce qu'a été la situation des femmes du passé, qui ont été certainement plus assujetties qu'on ne pense, plus dominées qu'on ne pense, mais également ont eu plus de pouvoir, plus de dignité et plus d'autorité qu'on ne pense. Donc tant qu'on ne clarifiera pas la complexité de la situation des femmes du passé, on n'avancera pas sur nous-mêmes, on ne comprendra pas quelque chose de nous-mêmes. Et c'est la même chose sur les sociétés non occidentales. Nous sommes occidentalistes et présentistes sur la question des sexes. Il est temps d'apprendre des autres sociétés non occidentales qui ont toute une conception de la personne beaucoup plus relationnelle que nous. Intégrons cette approche relationnelle et on sortira des faux débats sur est-ce que je suis un individu sans sexe ou une femme enfermée dans son sexe.
On sent que ce sujet vous passionne, Irène Théry, d'ailleurs c'est l'objet de votre dernier livre. Madame a levé la main tout à l'heure.
Merci. Anouk Chekarvar, syndicaliste CFDT. Je voudrais savoir comment les deux intervenantes articulent la question de la parité avec une autre question qui traverse aujourd'hui la société française, qui est celle de la diversité, notamment avec le fait que la Commission européenne, quand elle définit les normes aussi bien en France qu'ailleurs sur les critères de discrimination, place la discrimination liées au genre au même niveau que les autres critères qui peuvent être l'âge, les croyances, l'appartenance présumée à une race ou à des origines particulières.
Madame Fraisse.
Alors plusieurs, il y a beaucoup de choses à répondre. Juste un mot qui rebondit sur qui fait le lien avec votre question, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui est... Quand moi je n'aime pas le débat masculin et féminin, c'est parce que c'est un débat sur la valeur, c'est-à-dire sur l'identité. Ce qui est intéressant, c'est que Irène met l'identité du côté des catégories sexuées, c'est-à-dire homme-femme, et que moi je vois le problème de l'identité du côté de ce qui peut être soutenu comme valeur masculin-féminin. Moi, je ne sais pas si je suis masculine ou féminine, mais je sais que si je vais dans un certain nombre de régions du monde, on va d'abord voir que je suis une femme. C'est bien pour ça que cette catégorie, ce n'est pas identitaire, c'est le visible, c'est l'extériorité. Ce qui m'amène à répondre à votre question. Moi, j'aimerais qu'on travaille. On sait alors, si on arrive à dissoudre les assignations de sexe, de genre, de classe, etc., le sans distinction de auquel vous faites référence, il date de la Convention des droits de l'homme de 1950. C'est comme ça que ça commence. Et puis on va le retrouver effectivement aussi dans un certain nombre de textes européens. Mais on trouvera aussi dans les textes européens la mission d'égalité homme-femme, directement, notamment dans le traité d'Amsterdam de 1997. Alors, cette question, pour moi, une des réponses, parce qu'il y en aurait beaucoup à faire, qui m'intéresse en ce moment, c'est celle de la visibilité. Je fais quoi ? Parce que, au fond, par exemple, la question sexe-genre, c'est qu'on me propose, et je suis bien d'accord, à ce qu'on dissolve le fait que je sois née de sexe féminin, je suis née une femme, mais au fond, c'est peut-être que je suis un homme, même si je suis hétérosexuel. Donc, on peut compliquer tout ça. Je trouve qu'en deux siècles, ça s'est très bien passé avec la structure qu'il y a eu autour des années 1900, aussi bien avec, grâce à la sociologie qu'avec la psychanalyse. On a dissocié les êtres des qualités. Pour moi, homme-femme, ce sont des êtres, et masculin-féminin, ce sont des qualités. C'est dissocié, c'est tant mieux, on peut faire tous les mélanges dans tous les sens. Mais reste la question du visible. On fait quoi avec ça ? Parce que c'est par là que se réintroduit sans cesse la séparation. Vous savez, discrimination, c'est un néologisme de la fin du XIXe siècle, exactement de 1877, qui veut dire juger en séparant. Et le problème, ce n'est pas qu'on est de telle ou telle catégorie, c'est que ça nous revient en boomerang. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Je pense que, en tout cas, ce n'est certainement pas diversité, ni un principe. Je pense que ce n'est même pas un outil comme parité, c'est encore moins clair que parité. Voilà.
Bien, Thierry.
Très vite, pour dire que, là aussi, je suis comme Geneviève, on ne pourra pas parler de tout, il faut essayer de s'accrocher sur des questions qui sont des enjeux réels. Alors, quand vous faites le lien entre parité et diversité, en particulier ethnique, ça me fait penser au fait que nous devrions reprendre la question des sexes en nous souciant d'abord des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Je pense qu'un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, c'est l'accroissement considérable des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Le fait que pendant que certaines vont pouvoir accéder à des postes traditionnellement accaparés par les hommes parce qu'elles ont chez elles une nounou, une cuisinière, quelqu'un qui vient s'occuper, une auxiliaire de vie, tout un ensemble de choses, il y a ces femmes qui viennent maintenant quelquefois en tête de pont de l'immigration, avant même laissant leurs enfants au pays, laissant même les enfants et maris venant les premières, et des formes nouvelles d'asservissement domestique, etc. Donc, la parité qui est entièrement constituée sur l'opposition homme-femme ne permet pas de rendre compte du problème des rapports entre femmes. Et quand une femme en emploie une autre, elle n'est pas forcément mieux qu'un homme dans ce travail. Donc, il y a bien un croisement entre le problème de l'inégalité entre les femmes. J'étais dans un hôtel à Grenoble ce matin, je n'ai croisé, pour venir faire le ménage dans les chambres, que des femmes qui parlaient avec un accent étranger. On ne peut pas séparer la question d'être une femme et d'être aussi d'une certaine appartenance sociale, d'une certaine appartenance d'un pays. Donc ça, c'est un premier point qui fait qu'effectivement, si on veut réinventer la démocratie, il faut arrêter de traiter la question des sexes à part. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans la difficulté, dans la mondialisation, donc sur la question de la diversité, il faut arriver à comprendre, et le débat n'a pas commencé assez sérieusement, pour quelles raisons les ennemis de la démocratie, et en particulier les intégrismes religieux, mettent toujours l'accent sur la façon dont la démocratie aujourd'hui, telle que nous la vivons, avec des difficultés, mais aussi des progrès, est toujours perçue comme une décadence des mœurs au plan de la sexualité. Je crois que la façon dont tous les intégrismes nous disqualifient dans notre effort pour penser autrement la question de la sexualité, pour résoudre des questions autrement qu'on ne le faisait, et ramène dans des archaïsmes qui ne sont pas véritablement des traditions, là, il y a cette idée des intégrismes comme des religions sans culture, mais spécialement obsédées par la question sexuelle, est un enjeu majeur de la mondialisation. Et donc là, de ce point de vue-là, effectivement, diversité et question des sexes se rejoignent.
Madame.
Bon, moi, je suis citoyen modeste de base. Alors, je vais simplement dire quelque chose. Quand on parle de couple, il y a un homme et une femme. Et il y a une relation sexuée. Et on peut parler de position féminine et position masculine. Quelquefois, la position féminine n'est pas seulement liée, n'est pas le dû de la femme. Souvent, ça peut être aussi l'homme qui a cette position féminine. Donc moi, j'exclus un peu la femme et l'homme dans les responsabilités. Je parlerai plutôt de citoyens responsables face à des décisions, quelles qu'elles soient, soit au sein de la soit au sein de la famille, soit au sein général. Et moi, je souhaiterais que les femmes, eh bien, n'achètent pas que des poupées aux filles pour jouer et des fusils aux garçons. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais.
C'est pas une question dont il s'agit, mais une affirmation. Vous voulez commenter cette affirmation? On passe à une autre question.
Il y avait des questions là-bas.
On va laisser.
Il y a beaucoup de questions.
Peut-être en prendre plusieurs. J'ai peur que ce soit un petit peu compliqué si on en prend plusieurs, puisque vous répondez à chaque fois toutes les deux. Et j'ai peur qu'on s'y perde un peu.
Oui, voilà. Bonjour. Vous avez évoqué, Geneviève Fraisse, le fait qu'une société, ce n'était pas une population, mais c'était un tissu.
C'est moi qui l'ai dit.
Pardon, c'est vous, excusez-moi. Oui. Bon, donc, je me disais que dans un deuxième temps, vous aviez encore renforcé, Irène, Thierry, le fait qu'à l'instant, vous venez de parler des relations qui sont bien plus importantes que les éléments de la relation. Je trouve que vous, avec un peu de désinvolture, vous avez évacué le terme de solidarité de nos principes. Vous avez dit, on va garder liberté, égalité, solidarité, Ça, c'est vous. Ça, c'est
ah
vous.
Oui, moi,
je... Ça, c'est vous, Geneviève.
Ah oui, parce qu'au contraire, moi, je suis un grand défenseur de l'idée de solidarité.
C'est vous, Geneviève. Et je trouve que c'était...
Je n'ai pas écarté. J'ai juste dit que ce n'était pas un principe.
Oui, mais je pense... je crois que c'est quand même un des piliers aussi d'une société. Si on veut qu'elle tienne, qu'elle soit tissue, il faut de la solidarité.
Présentez-vous, madame.
Marie-France Mode, je suis présidente d'un réseau d'associations qui s'occupe du droit des femmes.
Geneviève Fraisse.
Oui, rapidement. Voilà. Alors, moi,
mais attendez, j'ai pas tout à fait terminé. À partir de ça, j'aurais aimé, pour aller de l'avant, que vous évoquiez aujourd'hui les perspectives de ce qu'on appelle les nouveaux féminismes anglo-saxons, mais qui commencent à être repris en France, effectivement, autour des termes de care qui vont plus loin. Il me semble que vous, Irène Théry, vous allez dans ce sens-là, peut-être plus que Geneviève.
Geneviève Fraisse, puis on vous fera réagir.
Alors, en trois points. Premièrement, je pense que, ça me permettra de commenter l'intervention précédente, si je reprends le mot gouvernement, c'est bien pour intégrer la question des responsabilités et c'est bien pour intégrer la question du relationnel. Mais c'est vrai que moi, je ne le vois pas seulement comme du relationnel, et peut-être je pourrais faire état d'autres travaux que j'ai pu faire, comme ceux sur le consentement, ou même celui sur le service domestique qui reparaît cette année, dans quelques mois, et qui pose justement la question de l'emploi des femmes par les femmes. Mais je veux bien aller dans cette direction-là. Simplement, je veux garder l'idée du politique, c'est-à-dire de la construction et d'un projet de société. Par exemple, pour le consentement, la question que j'ai posée dans des débats, le dernier était encore avant-hier soir, c'est quel monde de demain fabriquons-nous ? Donc, ce n'est pas une question qui ne m'intéresse pas. Simplement, j'emploie les mots que j'emploie, moi, de gouvernement, de collectif, de politique, de monde de demain. Ça, c'est pour commenter la première partie. La deuxième, je n'ai pas dit... je mets en dehors les troisièmes termes. Je dis simplement que dans la trilogie républicaine, les deux principes d'égalité et de liberté, puisque permettez-moi de faire des distinctions conceptuelles, ce sont des principes de la démocratie. Et par exemple, on pourrait discuter du mot fraternité, puisqu'il est à nouveau l'heure d'en discuter. Ce n'est pas un principe, car la fraternité plonge les pieds dans le réel. Et c'est pour ça que ce mot de fraternité est très compliqué. Et le mot de solidarité, on peut le qualifier, mais je ne peux pas le mettre au niveau de qualification principielle où je mets l'égalité et la liberté pour définir la démocratie. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas de la solidarité. Et quant à la question du care, bien, il se trouve que je vais débattre du livre de Fabienne Brugère lundi prochain, qui s'appelle « Le sexe de la sollicitude ». Nous allons débattre ensemble de cette question-là, justement. Donc, cette question-là est clairement... une question qui est posée et qui renvoie à ce que Irène a souligné tout à l'heure, à savoir la disparité entre les femmes, mais je dirais aussi la disparité entre les sexes, car qui va être employé pour le care ? Réponse.
On n'a pas eu encore une question d'un homme. Hein. Pourtant, vous êtes nombreux dans la salle. Monsieur là-bas, au fond.
Je pourrais répondre peut-être aussi. Je n'ai pas répondu.
On va d'abord demander à Irène Théry de répondre en quelques mots à...
Oui. Je pense que cette question du care, elle peut susciter, de même qu'elle est un peu comme la parité, elle peut susciter plein de malentendus. Hein. Le livre de Carol Gilligan, In a Different Voice, qui est beaucoup revalorisé aujourd'hui, c'est un livre qui a tendance, un petit peu à mon avis, trop à naturaliser comme une capacité féminine la sollicitude, et il faudra clarifier ces points. Mais ce que je crois essentiel dans le fait que revienne ce débat sur le care, c'est justement la question des valeurs. Moi, je crois qu'il ne faut pas du tout éliminer la question des valeurs et que ce que j'ai appris de plus intéressant sur la question des sexes ces dernières années, donc je l'ai appris justement en lisant des travaux d'histoire ou d'anthropologie qui se posent la question, en fait, de comprendre ce partage sexué des tâches, des rôles dans les sociétés traditionnelles. Je crois que là où on a un manque... c'est que on sait, et c'est là où j'alimente, si vous voulez, ma critique de la parité, c'est que la parité a laissé croire que ce partage des rôles n'avait comme seule raison d'être que la domination des hommes sur les femmes, au fond. Hein, que c'était la seule et unique explication de ce partage, c'était la volonté d'une classe d'individus d'en dominer une autre. Or, ce qu'on voit quand on étudie les sociétés traditionnelles, qui existent encore aujourd'hui, qui ont ce partage sexué des rôles, c'est qu'il a certainement des dimensions de hiérarchie, d'inégalité, d'asymétrie, tous ces mots ne sont pas les mêmes choses, mais qu'il a aussi une raison d'être alors ça peut paraître très troublant, parce que j'imagine quand je dis ça, on va dire, mais est-ce que... Il a une raison d'être qu'on comprend, qui est la suivante, c'est que ce partage sexué des tâches permet en même temps, simultanément, à une société de courir, si on peut dire, après des valeurs opposées et contradictoires. Il est opposé et contradictoire, par exemple, d'être en même temps en train de réussir sa carrière ou en politique et de s'occuper de ses enfants. Et pourtant, ce sont deux valeurs. Alors, la personne qui a le mieux compris que le monde humain est sexué était, et les sociétés étaient fondées sur des valeurs non pas cohérentes, mais des valeurs opposées et contradictoires, et que c'est ce qui leur donne leur prix, c'est Nicole Laureau dans tous ses travaux sur la Grèce antique, où elle montre, si vous voulez, que justement, entre la valeur masculine de la guerre, parce qu'on ne parle plus beaucoup de la question de la guerre, elle était centrale, qui était l'idée que l'individu doit être capable de risquer sa vie pour le groupe. Hein, c'est une valeur. Et les garçons étaient éduqués dans cette valeur qui amenait à aller prendre la place de ceux qui étaient morts au combat. Et elle met en rapport cette valeur masculine du sacrifice pour le groupe avec la valeur féminine, au contraire, qui dit que chaque être est irremplaçable. Et donc, quand un homme meurt au combat, ce n'est pas juste un anonyme qui meurt remplacé par un autre, c'est un fils, c'est un époux qui meurt et il ne sera jamais remplacé. Donc, je crois que là, il y a des choses qui peuvent paraître loin des débats politiques, mais qui sont en fait très près. C'est que quand il y a un changement aussi important que l'égalité de sexe, ça bouge notre idée de qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce que la condition commune de mortalité. Ça nous sépare pas simplement des autres sociétés, on doit chercher ce qu'on a de commun avec elles, parce qu'on doit le réinventer sous une autre forme qui est celle de l'égalité. Donc moi je pense qu'autour du CARE, ce qui se joue c'est ça, c'est qu'il faut que nous réapprenions à tricoter ensemble des valeurs opposées, en sachant que ces valeurs opposées, par exemple de l'honneur et de la gloire et du bonheur, de la réussite et de la sollicitude, elles ne vont plus passer par un partage homme-femme, elles vont traverser chacun de nous, chacun de nous. Hein. Mais pour qu'elles puissent traverser chacun de nous, il faut que la société, dans son ensemble, les organise. C'est là que la question du CARE, à mon avis, pose des problèmes tout à fait nouveaux de réarticulation entre des professionnalisations et des dimensions complètement privées et en dehors de toute idée de rétribution ou de métier.
Irène Thierry, afin penser. De vous laisser à toutes les deux un peu de conclusion tout à l'heure, monsieur donc a une question à poser. Désolé de vous faire promener avec le micro comme ça. Non, il est là-bas, monsieur, là-bas. Vous vous levez, s'il vous plaît, qu'on vous voit.
Il y avait des questions. C'est pour monsieur.
Un homme, quand même, un peu de parité dans cette salle. Positive.
Positive, absolument.
Monsieur. Oui. Bon, bah, pour une question très rapide, pour laisser le temps. J'ai eu le sentiment, et c'est une question que je voudrais poser.
Vous pouvez vous présenter, s'il vous
plaît ? Ah oui, excusez-moi, Olivier Fressard, comment me présenter ? Je suis bibliothécaire, voilà. Je me demande si un des problèmes auxquels on se confronte, ce n'est pas celui de l'articulation du politique et du social, c'est-à-dire en fait plus précisément de catégories politiques et de catégories sociologiques. Un des problèmes, à mon avis, de la parité telle qu'il a été présenté au début du débat, c'est que finalement, il conduisait à vouloir faire du Parlement une espèce d'échantillon représentatif de la société. Parce qu'on peut penser à mille autres catégories que celle de la parité entre hommes et femmes, entre ouvriers et autres classes sociales, ça a été pensé, entre préférences culturelles, je ne sais pas, ceux qui préfèrent Beethoven, ceux qui préfèrent, je ne sais pas, la house music, tout ce que vous voulez. Et on va contre, évidemment, les principes politiques de la République démocratique en pensant les choses comme ça. Je pense que la politique au niveau parlementaire, au niveau des organisations représentatives, doit être pensée à partir des idéalités, même si on sait qu'il y a un écart entre ces idéalités. Et oui, j'apporte des précisions. Une des choses qui a été demandée par Irène Théry, qu'on clarifie le débat. La question que je veux poser, oui, nous pensons aussi, même quand nous ne sommes pas des intellectuels professionnels. Je voulais demander si justement... je voulais demander si justement la position entre mœurs et loi dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était pas à ce niveau que pouvaient se résoudre les choses. Et au lieu d'essayer de faire du Parlement un échantillon représentatif de la société, est-ce qu'il fallait pas laisser faire la société civile ou les mœurs et donc les luttes informelles et les mouvements sociaux, quitte à ce que ces mouvements sociaux, effectivement, imposent à un moment aux représentants politiques des décisions d'ordre politique.
On va demander à la députée européenne, tout d'abord.
Ou à celle qui connaît les textes d'Hubertine Auclair, qui écrivait déjà au XIXe siècle un certain nombre de choses très simples. C'est ce que je dis quand je... Le Parlement, ce n'est pas un échantillon représentatif, c'est l'endroit où on fabrique le monde de demain. Et Hubertine Auclair, au XIXe siècle, elle disait « Moi, je ne vais pas payer d'impôts puisque je ne peux pas voter, parce que moi, ce que je voudrais, c'est participer aux affaires de la cité, c'est-à-dire, non pas dans une répartition, mais dans de quoi demain sera fait, que vais-je donner à mes enfants ?» Ça, c'est la question du politique. Ce n'est pas une question entre l'articulation entre politique et social, parce que, précisément, dans ce cas, on tombe sur l'histoire de l'échantillon. Ce n'est pas une question d'échantillon. Voilà. Maintenant, si la députée doit parler, elle dira simplement qu'avec 30% de femmes au Parlement européen, il se passe une chose très simple. On atteint un seuil de mixité et on oublie la question. Et on n'y pense plus. Moi, j'y ai pensé en 2004, quand je suis revenue au CNRS, quand je revenais à Paris à des réunions, ici ou là. Mais quand j'étais dans cette institution où il y a 30% de femmes, c'est un seuil de mixité, c'est un seuil d'expérience de mixité qui fait qu'on n'y pense plus. Voilà. Alors, bon, je m'arrête là-dessus.
Irène Théry, la réponse, oui. Et puis je vous demanderai d'enchaîner sur votre conclusion.
Ben, j'enchaînerai assez facilement parce que je suis d'accord avec vous que si on veut se replacer dans le cadre de ce forum, hein, réinventer la démocratie, il me semble que on pourra, si on veut en quelque sorte tirer ce qu'il y a eu d'intéressant dans ces débats sur la parité qui faisait valoir... à un moment, qu'il ne suffisait pas d'être d'accord pour l'objectif d'égalité. Maintenant, la discussion entre nous était comment et par quelle procédure et sur quel point on va avancer. C'était de faire comprendre que l'égalité, comme disait Castoriadis, n'est pas une réponse, c'est une nouvelle façon de poser les questions. Moi, je pense qu'on n'en est encore qu'au début de cette question de l'égalité de sexe et que vous avez raison de mettre l'accent sur le fait que le déficit, et c'est un peu pour moi la faute du débat sur la parité, depuis 10 ans, il est sur le contenu des politiques, il est sur les changements dans la société civile. Je crois beaucoup que c'est par là qu'on va avancer, à travers une façon de mieux entendre ce qui se passe dans la société civile. Je suis frappée de la façon dont on est capable de se cliver soi-même. Moi, je remarque sur la question des sexes, on n'arrête pas d'avoir une pensée clivée. Par exemple, on va dire dans certains domaines, par exemple, ici dans cette maison de la culture, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de travaux, de créations dans la danse, dans la littérature, dans le théâtre, qui ont essayé de questionner ce partage homme-femme, cette question des identités masculines et féminines. Puis par ailleurs, quand on est dans le monde politique, alors là, parité homme-femme, on vous compte et vous n'échappez pas à votre sexe. Le point sur lequel il faut avancer... C'est, à mon avis, celui qu'a nommé Pierre Rosanvallon à la fin de son exposé sur le fait de comprendre qu'une société, ça n'est pas, c'est une façon d'organiser du temps. Et cette question de la temporalité, elle est toujours présente quand on parle des sexes. On n'a plus de temps. On est pris par le temps. On court après le temps. Il y a quelque chose qui n'est pas bien pensé dans le temps. Par exemple, moi, je dirais franchement que la question qui me paraît la plus grave aujourd'hui, c'est le sort des personnes âgées. Il faut n'être jamais allé dans une maison de retraite pour ne pas savoir qu'une société qui ne sait pas quoi faire, quoi proposer réellement aux personnes qui vieillissent, d'autres, que cette espèce de relégation hors du monde humain dans ces maisons à part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est quelque chose qui autrefois justement n'était pas vécu comme ça parce que c'est dans les maisons, parce que c'était les femmes qui s'occupaient justement des personnes âgées chez elles et tout ça. Donc on a à inventer, effectivement, d'abord dans la vie sociale, sur la question de la conciliation vie familiale-vie professionnelle. On est encore très loin d'avoir trouvé la façon de ne pas rapporter ça comme une question à discuter dans le couple. Et à mon avis, c'est là que la question majeure, c'est le développement des services qui vont permettre de mieux concilier vie familiale-vie professionnelle. C'est la question de la redéfinition des relations de parenté quand ce n'est plus la règle, ce n'est plus justement la famille hétérosexuelle mariée qui est le seul modèle. C'est la question de l'organisation générale d'être capable de penser les normes de la vie sexuelle, etc. C'est là, du côté de la vie concrète,
qu'on peut renouveler ce que la parité n'a pas réussi à renouveler, c'est-à-dire une approche relationnelle de la question des sexes qui fasse la différence avec le passé, certainement. Bien sûr, personne ne veut revenir aux sociétés traditionnelles, mais sache conserver une leçon qu'elles nous ont léguée, c'est qu'aucune société humaine ne se passe d'énoncer ce qu'elle pense de notre condition commune, sexuée et mortelle. Et quand on oppose les femmes, les hommes, on ne voit pas à quel point la question du masculin-féminin est une question commune à tous, hein, qui transcende le fait de notre appartenance à un sexe ou à l'autre, mais nous oblige à dire quelque chose de cette condition, de l'énoncer sous la forme de valeur. Le vivre ensemble des deux sexes ne va pas de soi, il ne suffit pas d'être posés les uns à côté des autres, il faut le vouloir. Il faut par exemple que dans la filiation, les enfants qui naissent des ventres des femmes ne soient pas appropriés par les femmes et que les hommes aient une place dans cette filiation. Il faut donc énoncer cette solidarité. Donc je pense que ce qui a été dit à la fin autour des notions de valeur, de société civile et de solidarité sont les valeurs clés pour avancer par rapport à une certaine conception trop abstraite de la parité qui en est restée à des questions bien en deçà de la chair de la société.
Alors, il y a une chose avec laquelle au moins je serais d'accord avec vous, Irène Fraisse, c'est sur le fait que l'on court après le temps. Et là, c'est le cas.
Alors, nous sommes revenus au point de départ, c'est-à-dire que dans les dernières phrases d'Irène, malheureusement, la parité devient l'ensemble de la question homme-femme. Or, moi, je suis venue à ce débat parce qu'on m'a dit qu'il faut faire une controverse sur la parité. Depuis les débats sur la parité, j'ai publié par exemple un livre qui s'appelle « Du consentement », qui est sur la question de qu'est-ce que consentir, est-ce un argument politique, si on porte le foulard ou si on fait le travail du sexe, ou des choses comme ça, etc. Donc pour moi, je suis venue parler très précisément de ce terme qui s'appelle parité, qui a servi de partie pour le tout de la question du féminisme dans les années 90, mais qui a donc fait son boulot. Et alors moi, j'en ai gardé l'idée que c'était un outil. Mais à penser que ça devrait représenter le féminisme et que ça représente le tout. Mais non, c'est qu'un petit bout, on est bien d'accord. Sauf que moi, on m'a demandé de venir discuter de ça. Donc j'ai repris très précisément. Et quand je réponds à monsieur, je ne réponds pas globalement à ce que je pense de l'égalité des sexes en général et en particulier. Je vous réponds seulement sur qu'est-ce que la parité dans les instances politiques. C'est-à-dire j'essaye à chaque fois d'être extrêmement précise. Je pensais que ce débat était précis, même si dans un cadre très large, qui s'appelle celui de réinventer la démocratie. Pour moi, la parité n'est qu'un petit bout de la lorgnette. Il y a plein d'autres bouts de la lorgnette. Par exemple, le service domestique, qui a été mon premier travail, ou bien les deux gouvernements, ou bien le consentement, ou bien la controverse, et bien d'autres choses, ou Simone de Beauvoir, d'ailleurs, qui est mon dernier travail que j'ai publié. Donc voilà, je pense que c'est là où je m'inscrirai en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous avons débattu de la parité précisément, comme un point de pratiques politiques et d'histoire récente, mais en aucun cas nous avons débattu du monde en général et de la société en particulier dans tout ce que ça, en ce qui concerne les hommes et les femmes de toutes les façons et vues de toutes les façons. Mais simplement, je terminerai en disant deux phrases. La première, moi j'inscris donc cette affaire précise de ce mot précis qui s'appelle la parité dans une mise en perspective large d'histoire, de deux siècles et d'histoire de quelques décennies d'une part et d'histoire à venir, ça c'est très important, l'historicité des sexes est pour moi la question philosophique qui m'intéresse le plus. Et je terminerai par une anecdote à propos de quelqu'un qui s'intéresse à la mondialisation et qui travaille sur la pauvreté, qui est la jeune professeure du Collège de France, Esther Duflo, qui dans sa conférence inaugurale en janvier, il y a quelques mois, a pris la parité juste comme un exemple pour mesurer l'efficacité des politiques, parce que ce qu'elle fait de révolutionnaire par rapport au fait qu'on finance le monde entier, c'est de voir ce que ça fait, ce qui se passe, comment de faire de la mesure de l'efficacité. Eh bien, dans les instruments qu'elle se donne, la parité est un des instruments dont elle se sert pour mesurer l'ensemble mondialement de la question de la pauvreté et de comment sortir de la pauvreté. Voilà, donc j'espère que par ces deux derniers points, mise en perspective historique et simplement outil précis qui n'est qu'un tout petit morceau du puzzle de la question, on ne doit pas superposer les choses. Voilà ce que je propose.
Merci beaucoup. Merci.
Je me permets de vous retenir encore une seconde pour vous dire que les deux intervenantes seront chacune présente cet après-midi au Café des auteurs. Selon mon programme, Geneviève Fraisse devrait y être entre 15h et 15h30 et Irène Théry entre 16h et 16h30, si mes informations sont exactes.
Elles sont inexactes.
Oui. Vous allez venir plus tôt, c'est ça?
J'ai l'impression. Oui,
oui, c'est ça. Ça a été. Oui, d'accord.
On m'a demandé de venir presque
maintenant.
Dans la suite.
D'accord. Voilà. Bon, voilà. Et ensuite, Geneviève Fraisse. Merci.